Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale
infernale.
Et oui, nous sommes dans la matinale infernale avec nos chroniqueurs des ateliers des bibliothèques de Compiègne, puisque cette émission est en partenariat avec les bibliothèques. Elle a pour principe de former des amateurs de tous les horizons à la création de chroniques pour la radio, et après nous enregistrons les productions sous cette forme. Moi je suis Aurore, j'anime ou je participe déjà à d'autres émissions sur Graphite comme La Voix de la Plume ou le Rendez-vous Culture des bibliothèques de Compiègne. Ce matin avec moi du coup ce sont les chroniqueurs des ateliers du mercredi soir. Sachez que ces ateliers reprendront à partir de septembre et vous pouvez vous y inscrire à tout moment en appelant la bibliothèque ou en contactant Graphite. Mes chroniqueurs ont choisi des thématiques variées que vous reconnaîtrez peut-être puisque du coup leurs chroniques se suivent depuis les différentes émissions. Je souhaite la bienvenue dans le studio ce matin à Fatih, Patty, Marion, Benjamin. Il se pourrait même que moi aussi je sois chroniqueur, chroniqueuse. Mais nous avons aussi un invité mystère et vous ne le savez sûrement pas, mais il est là un petit peu silencieusement, mais pas tant que ça puisqu'il participe aussi dans les... Quand on dit infernal, il participe avec nous. Il est là depuis plusieurs émissions. Je ne vous dis pas qui c'est, mais je vous en dirai peut-être un petit peu plus tout à l'heure. Eh bien, on ne va pas déroger à la tradition aujourd'hui, et je vais dire honneur aux dames. Fatih, la féministe, nous entraîne avec elle pour commencer cette émission avec passion.
Hello tout le monde, petite chronique donc du samedi matin, histoire de bien commencer le week-end pour vous parler du processus de fonctionnement de nos sociétés humaines. Vaste programme, n'est-ce pas? Mais toujours sans prétention. En fait, Fatih, la féministe que je suis, se propose de faire une modeste analyse de comptoir de bar sur la question suivante. Comment, à partir de nos différences, naissent les préjugés, terreau des discriminations? Telle est la question. Commençons par un petit cours d'anatomie. Les corps des filles et des garçons se différencient fortement à partir de l'adolescence. Les hormones, messagers chimiques envoyés sur ordre de notre cerveau en sont à l'origine. Les œstrogènes et la progestérone pour les filles, la testostérone pour les garçons et les androgènes qui, elles, sont des hormones mixtes. Ces hormones vont induire donc des fonctionnements typiquement féminins ou masculins, des différences de comportement qui nous font parfois percevoir l'autre sexe comme étrange ou incompréhensible, parfois stimulant ou attirant, essentiel en tout cas pour la survie de l'espèce, tout ça. En effet, selon Lucie Vincent, une neurobiologiste, notre cerveau, aiguillé par des odeurs corporelles, chercherait inconsciemment un amoureux ou une amoureuse dont le système immunitaire serait très différent du sien. Car en cas de reproduction, l'enfant à naître aurait ainsi des défenses immunitaires au top. Donc vous l'aurez compris, pour la survie de l'espèce, les différences physiques ou comportementales sont essentielles. Bon, par contre, le revers de la médaille, c'est qu'elles vont induire des différences d'approche au niveau de la société, d'un point de vue culturel, et en premier lieu de la part de l'entourage, famille, école, etc. Et oui, tout le monde a entendu des phrases du genre « un garçon, c'est fort, ça ne pleure pas », « le rose, c'est une couleur de fille », et les voici donc ces fameux préjugés véhiculés allègrement. Vous l'aurez donc compris, des préjugés découlent des discriminations. Les discriminations, vous savez, cette attitude qui consiste à refuser à certains groupes humains des droits qui sont accordés par contre à d'autres. Les principales victimes? Les femmes, bien entendu. Mais pas que. Il y a aussi les enfants, les étrangers, les handicapés, n'est-ce pas Marion? Et il y en a. Et il y en a dans tous les pays du monde des discriminations. Il y a des discriminations punies par la loi et il y a celles qui sont prévues. Et oui, vous avez bien entendu, prévues par la loi. En France, par exemple, les hommes sont parfois, enfin, disons encore trop souvent, mieux payés que les femmes pour un même poste, ce qui est puni par la loi, quand c'est repéré bien sûr. Quant aux discriminations prévues par la loi, par exemple en Arabie Saoudite, les femmes n'ont pas le droit de conduire ni même de voyager sans l'autorisation de leur mari, car toujours considérées comme des mineurs. Et là, les discriminations entre les sexes organisent carrément leur vie sociale. Allez, je continue sur ma lancée. Avec une petite liste de discriminations faites aux femmes. Non pas juridiques, mais culturelles cette fois. Et ce, à l'échelle planétaire. Nous avons donc les mariages arrangés ou forcés qui empêchent les filles de poursuivre leurs études et les rendent plus vulnérables et donc moins autonomes. Nous avons aussi des femmes et des jeunes filles accusées d'avoir nui à la réputation de leur famille et qui sont donc tuées par des proches, frères, pères ou autres. On les appelle des crimes d'honneur. Il y a encore de nos jours de nombreuses filles qui subissent aussi l'excision, je dis même du mal à le dire, c'est-à-dire la mutilation génitale féminine. Pour finir avec mes exemples, somme toute douloureux, il y a une préférence aussi pour les garçons, très marquée dans certaines contrées, avec le refus d'accueillir un bébé de sexe féminin en ayant recours à l'avortement sélectif ou à l'infanticide, privant ainsi la population de millions de femmes. Vous imaginez, des millions d'êtres humains extraordinaires, mais quel gâchis ! Ah. Bien. J'ai encore un peu de temps, Aurore ?
Vas-y, prends ton temps, Fatih.
Ok. Eh bien, je souhaite aussi aborder le droit de vote, essentiel au bon fonctionnement de nos démocraties. Dans la plupart des pays, il a été accordé aux hommes avant de l'être aux femmes. Exception faite du Danemark, où les deux l'ont obtenu en même temps, en 1915. Allez, petite quiz à la manière de Benjamin. Quel est le premier pays où les femmes ont eu le droit de vote en 1893 ?
Allô ? Nordique peut-être ?
La Suède ?
Non, non, non. Pas nordique.
Du côté de...
Tout en bas. Enfin, ça dépend
en
quel sens.
Australie ?
Dans
on
cette
se rapproche.
Zone. Allez.
La Nouvelle-Zélande ?
Oui, c'est
une
ça.
Une fois que tu avais dit l'Australie, tu avais tout fait. Hein.
Donc, le premier pays où les femmes ont eu le droit de vote en 1893, c'est la Nouvelle-Zélande. Et quel est le dernier pays du monde, jusqu'en 2005, où seuls les hommes pouvaient voter ?
C'est en Europe ?
Non.
Arabie Saoudite ?
Pas loin.
Allez, Irak,
ça brûle. Pas loin.
Koweït ?
Yes.
Oh.
Donc, au Koweït, tout à fait. Alors, petite précision, la même année en 2005, l'Arabie Saoudite accorde le droit de vote aux hommes. Oui, vous avez bien entendu, aux hommes et ensuite aux femmes en 2011. Voilà, petite précision. Enfin, je dirais, en 2011 donc, dans tous les pays du monde où il y a des élections, les hommes et les femmes peuvent voter. Avec une exception, oui, il y en a une. Au Vatican. Et oui, comme les femmes ne peuvent pas encore être ordonnées prêtres, que dis-je, prêtresses, les élections sont réservées aux hommes. Et en France, quand le droit de vote a-t-il été accordé aux hommes et aux femmes ?
Après la Seconde Guerre mondiale ?
Alors, on commence par qui ? Les hommes ?
Les hommes...
Ouais, on commence par...
Alors avant ?
Oui, ça, 1800, ouais. Après Napoléon, là, au ouais. Moment de la
ça brûle.
République.
Allez, 1848.
Yes.
Et maintenant, les femmes, c'est celles qui m'intéressent, au fond.
C'est tard, ça.
1946.
Pas loin. Allez,
1945,
yes, lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous remarquerez quand même un sacré écart temporel, hein. 1848 pour les hommes, 1945 pour les femmes.
Presque un siècle. Hein.
Tout à fait, énorme. En Suède, avec 45% de femmes au Parlement et un gouvernement paritaire depuis 1994, ils sont les best. Demain, je déménage. Alors voilà, différents, oui, mais égaux en droit, c'est mieux. À cause de caractéristiques différentes, on discrimine la femme depuis bien trop longtemps. Et l'histoire l'a prouvé, tout peuple opprimé finit par se révolter. Mais à quel prix, me direz-vous ?
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu
Ouais, j'avais envie d'un petit air de rébellion là sur ta chronique, Fatih. Du coup, on a écouté un petit air de Nathalie Cardone, Hasta Siempre, qui parle du Che, bien sûr. En tout cas, moi, ça m'a mis en jambe. Alors du coup, je vais enchaîner avec ma propre chronique.
Allez, go.
Voilà, on parle toujours des erreurs de débutants, bien sûr. All I'm asking you is don't write me off just yet. Alors, vous êtes-vous déjà arrêté devant un livre dans un rayon parce que sa couverture vous avait interpellé ?
Oui.
Très souvent.
Ah, oui.
Eh bien oui, c'est normal parce que c'est là tout le principe d'une première de couverture. C'est ça ou d'être reconnu, parce que certaines collections sont très sobres, mais on les identifie en un clin d'œil, on sait que c'est dans telle collection de tel éditeur. Donc voilà, votre récit est fini. Vous êtes prêt pour la phase d'édition. Je vous dis bravo ! Avec un grand B, parce que c'est toujours une très belle aventure et un bel accomplissement de finir un récit. Mais n'allez pas croire que votre boulot est terminé.
Et non.
Erreur de débutant. Parce que c'est à vous de vérifier la maquette de votre ouvrage. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous seul savez comment vous souhaitez que votre récit soit mis en valeur. C'est vrai si vous êtes édité dans une maison, et c'est encore plus vrai si vous avez choisi l'auto-édition. Alors à quoi faut-il prêter particulièrement attention quant à la forme de votre ouvrage ? La couverture, évidemment, on vient d'en parler, mais qu'est-ce qu'elle doit contenir ? Eh bien, le titre de votre roman, évidemment, votre nom d'auteur, c'est mieux. Il y a souvent le logo de l'éditeur. Et puis le plus souvent, quand même, il y a une illustration. Et cette illustration, elle peut être faite par votre éditeur, par un illustrateur indépendant, ou ça peut être aussi une photo. Quelle qu'elle soit, cette couverture doit poursuivre un but bien précis, celui de mettre en valeur votre récit, d'accrocher l'œil du lecteur, d'illustrer votre titre, ou même de le compléter. J'insiste là-dessus car encore récemment, j'ai lu un livre d'une autrice auto-éditée, qui a d'autres livres à son actif, mais la couverture n'était pas super attrayante, je dois dire. La photo qu'elle avait choisie, elle ou d'ailleurs pas elle, j'en sais rien, je la trouvais assez quelconque et je me suis dit, peut-être que je vais comprendre du coup de quoi il retourne en lisant le roman. Mais finalement non, cette photo n'avait pas de rapport évident avec l'intrigue, ou alors je ne l'ai pas perçue. Le titre était d'une impression presque pixelisé. En tout cas, ça donnait pas une impression très qualitative. Donc je me suis pas arrêtée là-dessus pour le lire quand même. Mais en fin de lecture, j'ai été déçue parce que j'ai pas compris le rapport vraiment entre la couverture et le récit. Et si j'étais passée devant ce livre dans un salon ou dans un rayon, je pense que je me serais pas arrêtée dessus. Quand je suis en salon, moi, AYG Bleu Autrice, et que je présente ma trilogie de fantasy, l'Onéida, j'engage souvent la conversation avec les lecteurs, je leur pitch un petit peu mon roman, mais au-delà de ça, c'est quasiment un acheteur sur trois qui vient parce qu'il a été happé par la couverture du roman. Et du coup, ça c'est quand même une belle récompense. Et puis je remercie d'ailleurs encore, j'en profite, un petit clin d'œil à mon illustrateur Édouard Noisette pour ses merveilleuses illustrations. Mais voilà, vous comprenez du coup de l'importance de la couverture. Ça dit, il n'y a pas que la couverture dans un ouvrage, à quoi d'autre il faut prêter attention ? Une idée ?
Sur
la forme.
La taille des lettres,
des caractères.
Oui, des caractères.
Alors oui, toute la mise en page intérieure en fait, donc la taille de la police, ça en fait partie. Il y a aussi par exemple faire attention aux tirés de dialogues qui doivent être bien alignés, qui doivent être suivis d'un espace insécable pour que ce soit tout bien, ou de tabulation pour que le texte derrière soit lui aussi aligné. Ne pas mettre des tirés quand c'est du discours indirect, ça paraît assez basique, mais je vous assure que je l'ai déjà vu. Et si vous choisissez de commencer vos chapitres par exemple toujours sur la page de droite, il faut du coup que ce soit toujours sur la page de droite, qu'il n'y en ait pas un qui manque à l'appel. Même remarque si vous commencez avec une petite illustration ou vous commencez en milieu de page. Chaque début de chapitre doit ressembler aux autres. Il faut que ce soit un ouvrage qui soit uniforme, sauf évidemment volonté contraire et assumée. En fin de roman aussi, on peut penser aux remerciements. C'est un petit peu rituel. Il peut y avoir un éventuel sommaire pour lister les chapitres, ou même des pages sur des ouvrages qui seraient déjà parus, soit dans la même collection ou du même auteur.
On peut mettre les remerciements au début aussi.
Ah oui, c'est vrai, on peut mettre les remerciements au début aussi. Des fois, au début, il y a aussi une petite dédicace.
Oui, j'aime bien la petite phrase d'accroche.
Voilà, et ça, du coup, bah, c'est... oui, la préface, du coup, mais la... Ah oui, si elle est écrite par quelqu'un d'autre, tu veux dire. Mmh. Ça fait aussi partie de la maquette, effectivement. Et puis, bah, on termine avec la quatrième de couverture. Qu'est-ce qu'on y met ? En général, le synopsis du roman. Parfois, il y a une présentation de l'auteur. C'est pas obligatoire, mais voilà, ça peut. Avec ou sans photo, d'ailleurs. Il peut y avoir des images d'autres livres de la même saga ou de la même collection. Mais en tout cas, il va falloir faire des choix sur tout ce dont on a parlé. Et ces choix sont les choix de l'auteur. Ce doit être vos choix, vous en tant qu'auteur. C'est important que ce le soit. Parce que c'est votre livre, c'est votre bébé. Et puis les maisons d'édition, elles peuvent être de très bons conseils. Elles peuvent ne pas avoir beaucoup de conseils à vous donner parce que voilà, vous avez déjà vos idées. Mais en tout cas, il faut que vous soyez d'accord avec les conseils qu'ils vont donner ou les orientations qu'ils vont vous donner. Je trouve ça important. Bref, j'espère que ces modestes conseils vous ont aiguillé si vous êtes auteur. Et vous, lecteur ou lectrice, prêtez-y attention encore de façon plus consciente la prochaine fois que vous choisirez un nouveau livre. Voilà, voilà. Eh bien, on va changer complètement de sujet. Aujourd'hui, nos chroniques sont très très éclectiques. Et je vous invite à écouter la chronique de Marion, les handicaps en question. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ? Qui c'est celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il a ?
Qui c'est celui-là ? J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre. Ok, ok, j'arrête là la chansonnette, mais merci à Gaston Ouvrard pour cette introduction à ma chronique d'aujourd'hui. Certes, introduction quelque peu légère pour un sujet sérieux, mais dont les termes sont pourtant justes puisque je vais aborder le sujet des maladies invalidantes. Appel à vos mémoires. Dans ma première chronique, durant laquelle j'ai présenté les différentes catégories de handicap, j'en ai donné une définition générale. Quelle en était-elle donc ? Un souvenir ?
Tu demandes aux auditeurs, là, hein, c'est ça ?
Ouais, ouais, c'est ça. J'attends qu'ils appellent, en fait. On vous redonne le numéro, peut-être. Non, une idée ?
On sèche.
On sèche, vous séchez.
Rafraîchis-nous la mémoire,
Marion.
Tout ça
pour que tu nous rafraîchisses.
Voilà. Ce sont les troubles touchant les organes internes, notamment le cœur, les poumons, les reins. Et une autre idée d'un élément vital qui parcourt donc tout notre corps, essentiel à la survie.
Le cerveau, non ?
Système nerveux ?
Les veines ?
Voilà, les veines, le sang, de manière générale. Système nerveux va rentrer dans la catégorie plutôt du handicap physique.
Ah oui.
Là, on est sur les organes internes, donc. Pour approfondir le sujet de cette catégorie de handicap, je vais vous présenter maintenant les différentes classes de maladies invalidantes. En premier, il y a les tumeurs cancéreuses. Elles représentent un tiers des maladies invalidantes. Mais pourtant, très peu de personnes qui en sont atteintes font une demande de reconnaissance en tant que travailleurs handicapés. Assez représentatives également les maladies cardiovasculaires qui concernent le cœur et les vaisseaux sanguins. Elles sont souvent liées à certains facteurs comme le diabète, l'hypertension, le taux de cholestérol, l'obésité, etc. Nous avons aussi les maladies endocriniennes ou métaboliques qui sont les dérèglements comme les problèmes de thyroïde ou le diabète. Les maladies de l'appareil digestif, elles, touchent le foie, les reins et les intestins. Les maladies respiratoires concernent notamment les personnes atteintes de bronchite chronique ou d'asthme. Enfin, il y a la maladie du système immunitaire et attention, hématopoïétique, que sont les... J'ai perdu mon truc. Que sont par exemple l'hématopoïétique, voilà, je me suis concentrée, j'ai perdu... Donc, que sont l'hémophilie ou le VIH ? La particularité notable des maladies invalidantes est d'être invisible. Qui sait voir qu'une personne est atteinte de diabète ou a subi une greffe de rein ? Et alors que les handicaps ou déficiences vont avoir pour conséquence la limitation d'une fonction sensorielle, motrice, mentale, les yeux, les oreilles, etc., les maladies invalidantes entraînent une restriction d'activité de manière générale. Ainsi, la personne souffrant d'une maladie invalidante va voir ses capacités réduites pour se déplacer, supporter l'effort physique, tenir un rythme de travail, réussir à gérer la quantité de travail à accomplir, sa durée ou son intensité. Il va y avoir également des conséquences sur l'intégration au collectif, au respect des horaires, avec très souvent des besoins de soins fréquents. Pour finir cette chronique, je vais me permettre une petite projection dans le futur, question encore très hypothétique à ce jour, mais qui nous a été introduite lors d'une formation sur le thème du handicap et du travail. Je vais pour cela vous redonner la définition du handicap que je vous ai citée dans ma première chronique. Et considéré comme handicap, toute atteinte subie par une personne au niveau physique ou mental, de façon passagère ou définitive, de sorte que son autonomie, son aptitude à acquérir des apprentissages ou à occuper un emploi se trouve compromise de façon ponctuelle ou durable. Et donc, si une atteinte, et si j'aborde le sujet dans cette chronique en particulier, si une maladie invalidante n'a aucune conséquence sur l'autonomie, l'aptitude à acquérir des connaissances ou à tenir un emploi quel qu'il soit, que peut-il se passer ?
Bah rien.
Ce n'est plus un handicap.
Oui, voilà.
On avance là-dessus. Heureusement, quelque part, qu'on puisse trouver des solutions. Et il y a une maladie en particulier qui, il y a quelques années, ne permettait pas de travailler, notamment dans le domaine du transport, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, même s'il y a encore une autorisation médicale à avoir. Une maladie qui est connue et prise en charge depuis très longtemps et aujourd'hui avec des évolutions médicales est très bien traitée et permet à la personne de ne plus avoir de besoin de soins fréquents. Je ne sais pas si vous avez remarqué des personnes avec un genre de ventouse sur le bras, des fois.
Non.
Oui, non.
Oui Benjamin, tu as déjà vu hein, une sorte de ventouse grise, des fois, qui est fixée.
Alors,
c'est les diabétiques.
Ah.
Et oui, si avant une personne devait se prélever une goutte de sang pour analyser sur une bandelette son taux d'insuline, puis de glucose, puis au besoin s'injecter de l'insuline à l'aide d'une seringue, aujourd'hui, elle bénéficie d'un système de surveillance permanent de son taux de sucre à l'aide de ce capteur que vous n'avez donc du coup pas forcément regardé. Mais moi, c'est vrai que peut-être que étant dans le monde du handicap, je remarque plus facilement du coup.
Plus sensible.
Voilà. Et au besoin, une pompe également fixée sur la personne injecte automatiquement la quantité d'insuline nécessaire pour rééquilibrer ce taux.
C'est super.
Attention, ce n'est pas le cas aujourd'hui et peut-être que ça ne le sera pas. Mais dans la mesure où une atteinte n'a plus de conséquences sur l'accès à n'importe quel métier, la question ne se pose-t-elle pas ?
Tout à fait.
Merci beaucoup Marion. Eh bien, je propose que pour illustrer ta chronique, non pas parce que tu chantes mal, hein, mais...
Merci.
Peut-être qu'on pourrait écouter la chanson de Gaston Ouvrard en entier.
Voilà, attention, accrochez-vous. J'aurais pas pu la chanter en entier.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah mon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah mon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'ai répliqué. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, j'ai l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent,
J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros. J'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme. J'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur. J'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent. J'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent. Les tibias à plat plat, les mollets trop épais. Les orteils pas pareil. J'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long. L'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent. J'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. En plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi quel souci. La luette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent. J'ai le palais qui est pas laid, mais les dents c'est navrant. J'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent. Les canines se ratatinent, les molaires se font la paire. Dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche. J'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent. J'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires. J'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découle et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah mon Dieu, c'est tant d'étant d'être toujours ma traque. Ah mon Dieu, c'est tant d'étant, je ne suis pas bien pour ça.
Et nous voilà de retour dans cette matinale infernale qui explose avant l'heure. J'étais trop pressée de mettre mon explosion. Nous sommes toujours donc sur Graphite avec le groupe des chroniqueurs des ateliers radio de la bibliothèque de Compiègne, les ateliers du mercredi soir. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour les prochains ateliers qui débuteront au mois de septembre, fin septembre, sans doute toujours le mercredi soir d'ailleurs, qui vous aideront à apprendre à écrire des chroniques et puis à venir, comme mes chroniqueurs du jour, lire vos prestations, vos productions. Au micro de Graphite. Eh bien, on va continuer d'ailleurs nos chroniques. On retrouve Patty qui va nous parler de la littérature, l'argent et nous.
Eh bien oui, pour la deuxième partie de cette chronique, je vais rappeler le titre du livre, c'est « Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ?» C'est le titre du livre de Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson, tous deux chercheurs en sociologie au CNRS. Alors, on s'était quitté la fois dernière sur l'idée que la spéculation peut permettre de devenir super riche. Voilà. En effet, plus on est riche, plus on peut investir son argent dans des activités qui rapportent encore plus d'argent. C'est ainsi que l'on devient super riche. Le patrimoine travaille alors à la place des personnes. Le problème, c'est que les personnes riches aspirent à toujours plus d'argent. Elles sont mues et émulées par un état d'esprit de concurrence. Dans cette course, elles cherchent à payer moins d'impôts et déposent leur argent dans des niches fiscales où les paiements d'impôts sont réduits ou paradis fiscaux où le secret bancaire règne comme aux Bermudes, en Suisse ou au Luxembourg avec peu ou pas de prélèvement fiscal. Ce faisant, ils ne contribuent pas ou moins qu'ils ne devraient au financement des routes, hôpitaux, écoles, c'est-à-dire à la solidarité nationale. À chaque fois que les super-riches gagnent 100 euros, ils devraient en redonner 45 à la collectivité. Et combien en donnent-ils en réalité ?
15 ?
30 ? Non, un peu plus quand même, c'est entre les deux, 25. À l'opposé, le travail des pauvres est souvent sous-payé et ils ne bénéficient pas de la redistribution des richesses qui passent à l'as. De plus, les pauvres paient plus d'impôts que les riches car ils ne peuvent pas échapper à l'impôt d'une partie de leurs revenus. C'est ainsi que les inégalités...
Proportionnellement, du coup, veux dire.
Oui, tout à fait. Les inégalités se répètent malgré le mérite prôné par la République, parce que les avantages de départ liés à la naissance se transmettent, ainsi qu'une éducation plus complète permise par ces moyens. Dans le livre de ces deux auteurs, de ce couple d'auteurs, vous trouverez d'autres informations sur le lieu de vie des riches, leurs occupations qui ne peuvent être définies comme un travail. À présent, sortons du livre et regardons quelques chiffres. La fortune cumulée des 500 Français les plus riches s'élève à 330 milliards d'euros, un peu plus que le budget de l'État estimé à 311 milliards d'euros en 2022. La valeur cumulée des 500 plus grandes fortunes de France dépasse le cap des 1000 milliards en 2022. Elle a augmenté de 30% en un an en pleine pandémie.
En vrai, Patty, moi, je ne sais pas ce que ça fait, 1000 milliards. Enfin, je ne me rends pas compte, en fait.
Eh bien, c'est 1000 milliards, 2000 sabords, sauf que c'est 1 euro.
Excellent, c'est une réponse.
C'est vrai que c'est une somme assez abstraite et qui dépasse nos représentations. C'est pour ça que j'ai estimé, enfin j'ai un peu comparé au budget de l'État.
C'est une, ouais, c'est une
très grosse somme. On va continuer avec quelques chiffres, désolé pour l'abstraction. Après, pour s'en rendre plus compte, il n'y a qu'à devenir riche, hein, c'est tout.
Il n'y a plus qu'à.
Il y avait en France presque 9 millions de personnes pauvres en 2014. Donc là, c'est des grands chiffres aussi, mais ça correspond à un nombre de personnes. Sur 10 personnes pauvres, 2 sortent durablement de la pauvreté. En 2022, on compte près de 11 millions de personnes pauvres en France. Plus de la moitié de ces pauvres sont des femmes. 17% de la population vit sous le seuil de la pauvreté monétaire. Et la moitié des pauvres vivent, alors cette somme-là est beaucoup plus concrète, la moitié des pauvres vivent avec 885 euros mensuels ou moins. Passons à la fraude. Le montant de la fraude fiscale des plus riches s'élèverait à 80 milliards d'euros en 2014 et passé actuellement entre 80 et 100 milliards, presque un tiers du budget de l'État. Ça fait quand même beaucoup. En 2021, 10,7 milliards d'euros ont été réellement encaissés au titre de la fraude fiscale. En hiver 2022, période où l'on observe le manque de moyens des hôpitaux et de certaines écoles, le chiffre de cette fraude fiscale a de quoi provoquer des émotions fortes de colère et d'injustice. Cependant, le 16 décembre 2022, les informations de France Inter annonçaient qu'une imposition minimale de 15% était acté pour toute entreprise exerçant une activité en Europe. Et là, on pense aux grosses entreprises qui, jusqu'à là, s'en affranchissaient, que sont les GAFA dont on avait beaucoup parlé. Mmh. Sortons des chiffres pour nous référer à l'une des 3 valeurs fondamentales de la France, la fameuse égalité. Elle est sous-tendue par l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, tout le monde le sait en général. Et suit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'on peut gagner plus d'argent, mais si c'est utile au bien commun, en fait, hein, dit autrement. Il peut y avoir des inégalités de revenus, mais il faut que ce soit... Ça devrait être justifié par le service que ça rend à l'ensemble. Malgré ce constat bien installé, est-il possible de rendre ce monde plus équitable, donc meilleur? On peut se poser cette question. Oui, ce n'est pas une fatalité, juste un ensemble d'habitudes et de peurs immobilisantes. Des pistes sont tracées dans le dernier chapitre du livre. À noter que l'hyperproductivité associée à la course à l'argent a contribué à mettre en danger et détruire en partie l'équilibre écologique. Bon, ça, on le sait. Mais ses conséquences délétères devraient favoriser un changement positif.
Eh bien, espérons-le. Mais bon, quand tu dis que la fraude fiscale, finalement, c'est un tiers du budget de l'État, ça veut dire que l'État pourrait récupérer un tiers de budget en plus.
Bien sûr.
Super. Ça fait pas rêver. Merci beaucoup, Patty, pour cette dernière analyse littéraire. Et puis, on va clore cette émission avec notre chroniqueur sur les addictions, Benjamin. Alors, j'espère que vous êtes quand même bien réveillé, que vous êtes d'humeur joueuse, parce que Benjamin a toujours son petit quiz sur le fil. Et puis, je ne sais pas si avec les jeux d'argent, on peut devenir riche, mais c'est ce qu'on va vite savoir. Vas-y.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite chronique sur l'addiction aux jeux d'argent. Petit quiz.
Ah oui, chronique et quiz.
Oui,
les deux.
Première question, quels sont les pourcentages de joueurs à risque?
De ceux qui jouent?
vraiment.
Oh, un tiers, allez.
20%, j'aurais dit.
Moi, ouais, j'aurais dit 15. Allez. 15 aussi.
En France, les joueurs à risque représentent plus ou moins 1% de la population et les joueurs actifs près de 0,5%.
D'accord, ça va.
Bon, ça va.
Ils sont pas nombreux. Hein. Non.
Moins nombreux que ceux qui fraudent.
Les gens savent se tenir, alors. Je pourrais peut-être jouer au casino. Peut-être que finalement, je ne serais pas addict. Alors. Je m'en interdis. Là.
Non, non, résiste, Marion.
Deuxième question. Comment s'appelle l'addiction au jeu d'argent?
Ludo, machin.
La fricomanie. Non,
parce que le, c'est les jeux. La jeu-mania.
La monnaie-manie. Je sais pas.
On parle de jeu pathologique ou de ludomania.
Ah, mais j'y étais.
T'es pas loin.
Pour caractériser l'addiction au jeu, le joueur compulsif risque une mise d'une certaine valeur, le but de gagner encore plus. Casino, jeu en ligne, loterie, tiki à gratter, paris sport, cartes, courses hippiques.
Eh oui, il y a pléthore de...
Il y a tout
de...
maintenant, ouais. les trucs, les mails, on est relancé pour faire tel jeu, tel machin.
Troisième question, pourquoi devient-on addict aux jeux d'argent?
Ah, pour devenir riche, hein, comme Patty a suggéré.
Monnaie.
La dépendance aux jeux de hasard et d'argent est le résultat d'un ensemble de facteurs qui progressivement peuvent influencer le comportement de la personne qui joue et son rapport au jeu. Ce qui n'était qu'un plaisir de vie, divertissement, devient alors un besoin. Le jeu n'est plus un jeu.
Ah oui.
Quatrième question, comment savoir si on est addict aux jeux d'argent?
Quand on n'a plus de sous.
Ben, quand le compte est à découvert.
Quand on commence à vendre sa maison.
Quand on ne
la voiture.
Tient plus compte des inconvénients que les dépenses occasionnent.
On ne peut plus s'en passer.
L'addiction au jeu est une forme de dépendance. L'addict ne s'intéresse plus à son environnement et se coupe progressivement de celui-ci. On observe une désocialisation progressive et une perte de performance générale. Angoisse, troubles du sommeil, perte de mémoire et de concentration.
Oui, là on va loin.
Cinquième question, quelles sont les conséquences de l'addiction au jeu d'argent ?
Les plus ou moins les mêmes conséquences que pour les autres addictions dont tu nous as déjà parlé.
La ruine.
Non, plus, ouais, plus le côté financier. Il y a le côté financier, séparation, divorce.
L'isolement.
En revanche, les personnes qui jouent de manière excessive risquent une perte de contrôle et le développement d'une dépendance. Elles s'exposent alors à différents risques, notamment à des problèmes en matière de santé psychique et physique, ainsi qu'à des difficultés sociales et financières. L'endettement s'aggrave et le joueur peut solliciter des prêts d'argent auprès de son entourage ou d'organismes de crédit et dans des situations critiques, il peut arriver à commettre des délits, escroqueries, abus de confiance, vols, etc. Tout ça pour trouver de l'argent.
C'est comme la drogue.
Hein. Ça peut aller loin. Hein.
Ouais, le pire, c'est les couples mariés qui sont solidaires. Personne ne se retrouve solidaire des dettes.
Le conjoint prend cher. Hein.
Les difficultés peuvent également s'étendre à la sphère professionnelle. Le temps important consacré au jeu, les éventuels troubles du sommeil associés à la dépression sous-jacente peuvent être à l'origine d'une perte d'intérêt pour l'activité professionnelle et d'un possible accroissement de l'absentéisme. Une baisse de la concentration et de la qualité du travail sont amplifiées par la possibilité de jouer en ligne depuis un lieu de travail et pendant les heures de travail.
Ah oui, on met son portable sur le coin du bureau et puis
oui, hop, maintenant on peut avoir des jeux de loterie, tout ça sur le téléphone du coup. Les difficultés dans toutes les sphères de la vie du joueur, les dépressions sous-jacentes peuvent plonger le joueur dans une grande souffrance à l'origine d'idées suicidaires devant l'ampleur des problèmes et ne voit pas comment il va pouvoir y faire face.
Eh oui, c'est la spirale
infernale.
Infernale, ouais, c'est le moins sympa ce infernal là quand même.
Ouais.
Ouais, tu la retires en plus. Sixième et dernière question, comment soigner son addiction au jeu d'argent?
Ou à la fois un professionnel, je pense. C'est compliqué.
Un psychologue.
Oui. Toutefois, pour être soignée, l'addiction au jeu d'argent nécessite l'accompagnement d'un professionnel, de l'addictologue et ou d'un psychologue qui mettra en place une thérapie pour aider le joueur à reprendre le contrôle vis-à-vis de sa pratique des jeux d'argent et de hasard. Avez-vous déjà parié que telle ou telle équipe de foot allait gagner? Mais si cette pratique est courante dans les cafés et l'air anodine, il s'agit d'un jeu d'argent.
Eh oui.
Non, mais c'est pas fait.
Non, vous avez jamais.
J'aime bien, c'est quoi, aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du Monde, là, c'était une pieuvre qui. C'était elle qui décidait qui allait gagner. Les gens, ils pariaient par rapport à ça. Je sais plus, c'était un truc allemand. C'était.
Elle devinait.
Bon, elle était allée loin hein, quand même, je crois, jusqu'au quart, elle avait deviné. Donc les gens, ils se mettaient de plus en plus à parier par rapport à ce que. La pieuvre, vers quelle équipe? Elle est terrible.
Il paraît que les pieuvres ont 9 cerveaux.
Ah, c'est ça. C'est ça. Bah, voilà.
Même si regarde la télé. À la femme.
Un dans chaque tentacule.
Bien, merci beaucoup, Benjamin. On fera de plus attention. Alors, moi, j'avoue que j'aime bien, de temps en temps, parier sur une équipe ou un truc comme ça. J'aime bien jouer au poker. Voilà, donc je vais faire attention, du coup. Si vous avez l'impression que je tombe dans la dépression et tout ça, vous me faites une petite alerte, ok?
Promis.
Merci, vous veillez sur moi. Hein. Bon, eh bien, cette émission touche à sa fin. Est-ce que vous voulez que je vous dévoile qui était donc notre invité mystère?
Oui.
Oh, oui.
Allez, eh bien, il s'agit de Martin. Martin a 10 ans et à force de venir assister à nos enregistrements, et oui, parce que Martin, c'est le fils de Marion, les handicaps en question, eh bien, Martin a très envie de devenir lui-même chroniqueur. Donc, il participera avec nous aux prochains ateliers qui débuteront en septembre prochain. Ce sera donc notre plus jeune chroniqueur. J'ai même ouï dire, Martin, que tu avais déjà écrit ta première chronique. Est-ce que tu veux nous dire de quoi ça va parler ?
Ça va parler du système solaire.
Génial. Eh bien, écoute, j'ai hâte d'entendre ça, Martin. Et je suis ravie qu'on t'ait donné envie de participer. Eh bien, on va terminer en musique. Une mélodie entraînante pour reprendre à la fois les sujets d'argent de Patty et de Benjamin. Merci à vous, mes chroniqueuses Patty, Fatih et Marion. Merci à toi, Benjamin. Et merci à toi, Martin.
Eh bien, merci aussi à toi, Aurore.
De rien et merci, Aurore.
Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs. Je vous dis bien sûr à bientôt pour une prochaine matinale.
Infernal.
Salut, c'est le 70 dimanche. La pêche. 2, 3, 4. Si j'avais le pouvoir d'achat. Ah, j'achèterais plein d'objets sans fil. Ah, j'achèterais un écran plat. Ah, la vie serait plus facile. Ah, je t'achèterais un stylo. Je t'achèterais un cahier, peut-être même que je pourrais payer l'université. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi. Oh. Si j'avais le pouvoir d'achat, ah, j'achèterais des boîtes en plastique, ah, j'achèterais une tente Quechua, ah, aujourd'hui on ne sait jamais, ah, je t'offrirai le TER, je t'emmènerai jusqu'à Beauvais, peut-être même que je pourrais payer l'hospice de mémé. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le supermarché. Le super pouvoir de pouvoir marcher tout en achetant du lait UHT. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Donnez-moi le pouvoir d'achat. Je devrais payer plus d'impôts, mais en fait je paierai moins d'impôts. Parce que les impôts c'est bien fait. J'achèterai un camembert président. Oh. celui qui sent des pieds. Oui, le président, il sent des pieds. Je m'abonnerai à la piscine, puis j'irai chez le podologue me faire enlever une verrue. Je ferai des heures de Vélib, je m'achèterai un barbecue. Avec un allume-barbecue, je m'achèterai un rottweiler pour protéger mon barbecue.
Je placerai,
oui,
1000 euros à l'excellent taux de 4%, ce qui me fera au bout de 10 ans la coquette somme de 400 euros, c'est très important. Je pourrais m'acheter une brosse à dents, du jus d'ananas, un téléphone pour pouvoir raquer encore un peu plus.
Toujours un peu plus, un peu plus, toujours un peu plus. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Allez, salut, à dimanche prochain. Oh la 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 la, 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 la 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 la.